on avait vu les fois précédentes ce qui concernait la philosophie des Lumières, qui devait avoir une incidence, une influence si grande sur l'évolution de la société d'une manière générale, puisque nous en souffrons encore aujourd'hui, et aussi sur l'Église qui va, elle, connaître non pas un temps de réveil, mais le contraire d'un temps de réveil, c'est-à-dire un temps d'assoupissement spirituel. Après avoir parlé justement de la philosophie des Lumières, il nous faut parler des déistes, et tout d'abord des déistes anglais. La philosophie des Lumières est une philosophie déiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la philosophie du XVIIIe siècle ne remet pas fondamentalement en cause la croyance en Dieu. Mais le Dieu des Lumières est un Dieu qui est extrêmement différent du Dieu de la Bible. Là où le Dieu de la Bible est un Dieu personnel, qui se révèle, qui parle, qui intervient dans la création, dans le cours normal de la création, par la réponse aux prières, par les miracles, par la liberté qu'il laisse à l'homme, eh bien, le Dieu des philosophes du XVIIIe siècle est un Dieu qui est un Dieu impersonnel, un Dieu lointain, un Dieu qui est le Deus ex machina, c'est-à-dire celui qui a mis qui a donné la chiquenaude initiale, si vous voulez, du Big Bang, si on peut parler comme ça, bien que le Big Bang soit anachronique à cette période-là. Mais enfin, il est celui qui a créé le ciel et la terre, ça, les philosophes anglais le reconnaissent, mais son rôle s'arrête à ça, en quelque sorte. Alors, il est celui qui préserve sa création, c'est vrai, mais il est aussi un Dieu qu'on ne peut pas connaître. On ne peut pas le connaître autrement que par la raison humaine. Par conséquent, les déistes nient l'idée de la révélation. Et c'est en cela qu'ils sont dans le courant, justement, des Lumières, en ce que, précisément, ils nient la possibilité d'une révélation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître entièrement ce Dieu-là, mais on ne peut le connaître que par les Lumières de la raison, la seule raison. À partir de la connaissance scientifique, par exemple, permet de connaître Dieu, ce qui fait que cette connaissance de Dieu va être, en fin de compte, extrêmement limitée. Le Dieu des déistes est un Dieu qui ne peut intervenir dans sa création, qui ne peut intervenir dans l'histoire. C'est un Dieu qui ne fait pas de miracles. Et les déistes nient la réalité du miracle, au nom, justement, de la raison humaine, parce que ces messieurs, eux, n'ont jamais été témoins d'un miracle. Par conséquent, n'en ayant jamais vu de leurs yeux vus, ils concluent que le miracle n'existe pas. Et que par conséquent, les miracles qui sont rapportés par l'Écriture ne sont que des pieuses fables, des fictions, créées de toutes pièces par les auteurs bibliques, notamment les miracles des évangiles, pour mieux abuser la naïveté et la crédulité des croyants. Et les déistes anglais vont avoir une orientation anticléricale très forte, dans ce sens qu'ils considèrent que le christianisme en particulier a été une religion d'exploiteurs, qui a été souvent, ce qui d'ailleurs n'est pas sans fondement, du côté des pouvoirs et a apporté au pouvoir la caution, n'est-ce pas, de son autorité morale, quand ce n'était pas tout simplement le désir de dominer soi-même, en dehors justement des pouvoirs établis. Et de ce fait, les déistes prônent une religion dite naturelle. Et là, nous retrouvons le grand thème des Lumières, n'est-ce pas, la nature. Il existe une religion naturelle. Qu'est-ce que c'est cette religion naturelle? C'est une religion qui a des points communs avec toutes les religions, finalement, c'est-à-dire la croyance en Dieu. D'une certaine manière, la croyance dans une sorte de rétribution dans l'au-delà, ça, certains déistes vont jusque-là. Mais surtout, ce qui est la grande idée, n'est-ce pas, des déistes, c'est la morale. Pour eux, il existe une morale qui est commune à tous les peuples. Ça, évidemment, ça ferait bondir aujourd'hui les humanistes modernes, mais enfin, c'était comme ça que les déistes anglais voyaient les choses. Et finalement, on retrouve les grands principes de la morale dans toutes les religions. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de tort à ton prochain. Bon, voilà la morale générale, qui est justement basée, et ça les déistes l'ont bien vu, sur la connaissance de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de morale non plus. Alors les déistes ne remettent pas en cause l'existence de Dieu parce que justement on a besoin d'une morale. Et c'est Dieu qui établit cette morale. Alors il y a une religion naturelle. Une religion qui consiste essentiellement à vivre justement cette morale naturelle qu'on trouve dans toutes les civilisations, qu'on trouve dans toutes les cultures, qu'on trouve dans toutes les religions. Le culte des déistes est extrêmement simple. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de livre saint, il n'y a pas de tradition. Et finalement, c'est un sentiment assez subjectif à l'endroit de la nature. N'est-ce pas ? Et là, on retrouve justement le culte de la nature qui va être celui des déistes et des Lumières d'une manière générale. Il faut dire que le déisme naît en Angleterre au XVIIIe siècle, dans une Angleterre qui est totalement mondanisée, qui, de ce fait, est la première à s'ouvrir à ces idées nouvelles que sont justement les philosophies des Lumières. Parmi les principaux déistes anglais, il faut citer le philosophe Cork, C-O-R-C-K-E. C'est date 1632-1704. Qui fonde la connaissance générale et la connaissance de Dieu sur l'expérience et sur la raison. Donc ici, on est à fond dans la philosophie des Lumières. Et qui va donc prôner ce qu'il appelle un christianisme raisonnable. Étant entendu que le christianisme de la révélation n'est pas un christianisme raisonnable, puisque il fait appel au miracle, il fait appel à une révélation qui est, dit-il, irrationnelle, non raisonnable, qui est un ensemble de contes de fées pour gens un petit peu attardés. Et il va donc être le premier à prôner cette religion naturelle qu'il dit être commune à tous les peuples. D'ailleurs, c'est très intéressant, s'étaient pas rendu compte ces gens-là qu'en disant ce qu'ils disaient là, ils ne faisaient que rejoindre l'islam, parce que c'était exactement le dogme de l'islam, que l'islam est la religion naturelle, n'est-ce pas, de tous les peuples, et que si on laissait un enfant grandir de lui-même sans l'influencer sur le plan religieux, il deviendrait naturellement musulman. Alors, on comprend. Enfin, ces gens-là auraient dû finir musulmans, mais enfin, ils ignoraient certainement le Coran. Ils avaient sûrement jamais lu le Coran. Ils ignoraient justement qu'il y avait ça dans le Coran. Alors, Cork nie la Trinité, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Enfin, le Fils de Dieu, tout ça, c'est une aberration. Mais il ne rejette pas pour autant le nom de chrétien. Il rejette la Bible. Il accuse les apôtres d'avoir falsifié la vérité. Donc ici, nous sommes à fond dans cette religion déiste dont nous parlions tout à l'heure. Un autre déiste anglais de cette période-là se nomme Shaftesbury. C'est Shaftesbury. C'est date 1671-1713. Et qui, lui, va reprendre en quelque sorte les données de Cork, mais qui va beaucoup insister sur l'importance de la morale. Mais la morale, pour lui, doit ne pas être basée sur la religion. Il est le premier, justement, à tenter de séparer la morale de la religion, ce qui sera la tentative de bien des philosophes après lui, n'est-ce pas, jusqu'à Hegel en particulier. Et cette religion, c'est plutôt cette morale, doit pouvoir tenir même en face de l'athéisme. On sait ce qu'il en fut, et que quand l'athéisme a été triomphant, bien la morale s'est effondrée avec lui. Et notamment, justement, il entend promouvoir une espèce de morale un peu stoïcienne, c'est-à-dire qui a en elle-même sa propre récompense. Et l'idée d'une rétribution future, il la rejette. Hein, l'idée que les bons seront récompensés dans l'au-delà et les méchants punis, pour lui, il lui semble être la négation même de la morale. L'acte moral est en lui-même sa propre récompense. Celui qui agit moralement, eh bien, ne cherche pas d'autre récompense que l'autre récompense que la satisfaction d'avoir accompli justement son devoir, tout simplement. Bon, c'est pas très motivant, vous me direz, et certain qu'une pareille morale a peu de chances de devenir une valeur universelle, comme l'entendait le faire Shaftesbury. Citons aussi un autre philosophe déiste de cette période-là, Bolingbroke, Bolingbroke, c'est date 1678-1751, qui a été un modèle de Voltaire. Voltaire avait une grande admiration pour ce Bolingbroke-là. Et puis ensuite, un certain Matthew Tyndale, qui n'a rien à voir avec le Tyndale que nous connaissons pour avoir traduit la Bible. D'ailleurs, ça ne s'écrit pas de la même manière. Le Tyndale, véritablement évangélique, s'écrit avec un Y. Cela s'écrit avec un I simple, n'est-ce pas? T-I-N-D-A-L-E. C'est date 1656-1733, qui rejette tout ce qui n'appartient pas à cette religion naturelle qui a été élaborée par les déistes anglais. De l'Angleterre, le mouvement des Lumières va se propager en Allemagne chez des philosophes qu'on va appeler les rationalistes allemands. Les rationalistes allemands sont des gens qui sont moins extrémistes que ne sont les déistes anglais. Mais ce sont des gens qui croient vraiment à ce qu'ils appellent le siècle des Lumières. Et l'expression « siècle des Lumières » naît en Allemagne avec les rationalistes allemands. Et les rationalistes allemands, eux, ont comme mission, du moins celle qu'ils se fixent, de réconcilier l'Évangile, qu'ils ne rejettent pas, à l'inverse des déistes anglais. Ils veulent réconcilier l'Évangile avec la raison humaine. Et alors, ils vont prendre les miracles de l'Évangile sans les nier, ce que faisaient les déistes anglais. Ils vont essayer de leur donner une explication rationaliste. Je vais en donner quelques-unes, des explications qu'ils vont donner pour vous montrer un petit peu le grotesque dans lequel ils tombent. Par exemple, il nous est dit que lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, eh bien, la montagne était toute en feu. Alors, il y avait des voix, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs. Moïse était dans la nuée, le peuple était frappé de terreur en face de ce spectacle terrible, que de cette montagne qui brûlait de cette manière-là. Alors, pas de problème, disent les rationalistes allemands. Moïse avait fait un formidable feu d'artifice sur la montagne, et puis le peuple qui était crédule avait cru que c'était le Seigneur qui intervenait. Bon, il ne dit pas où Moïse avait été prendre les fusées du feu d'artifice pour faire ça, et qui avait inventé le feu d'artifice. Ça nous est pas dit, mais enfin, c'était comme ça. Autre exemple, n'est-ce pas, la multiplication des pains. Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Alors, ça, c'est vraiment quand même embêtant, c'est gênant, quoi. Alors, eh bien, si, c'est très simple, c'est que finalement, les gens, contrairement à ce que disent l'Évangile, ils avaient quand même chacun pensé à emmener un petit pique-nique, quoi. Et puis, au moment de se disperser, personne n'osait sortir son pique-nique parce que personne n'osait partager avec son voisin en disant, si je partais avec mon voisin, j'aurais plus rien pour moi. Et puis, il y a eu ce petit garçon, n'est-ce pas, qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Lui, il a été prêt à partager avec les autres. Alors, ça a été, Jésus a pris les pains, il a dit, voyez, regardez ce petit garçon, lui, il est prêt à partager. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez pour partager avec vos voisins? Et chacun s'est tourné vers son voisin, il a sorti son pique-nique, il l'a coupé en deux, il a donné le morceau. C'est comme ça qu'il y a eu, voyez le style, quoi. C'est le rationalisme. Bon, autre chose, après la multiplication des pains, Jésus marche sur les eaux. Et puis, les disciples ont peur. Alors, on nous explique, n'est-ce pas, qu'il y avait une espèce de petite digue qui était à fleur d'eau, quoi, hein, qui s'avançait dans la mer, et que Jésus s'était avancé sur cette digue, et puis que, comme les disciples étaient loin sur la mer, n'est-ce pas, ils avaient l'impression que Jésus marchait sur la mer. C'est comme, par exemple, dans un jeu scout, on a fait ça une fois, hein, on avait l'impression qu'il y avait un fantôme qui s'avançait sur un lac. Eh ben voilà, c'est comme ça que Jésus a fait, n'est-ce pas. Voyez-vous que, finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Enfin, voilà le genre d'explication, c'est le rationalisme allemand. Rationalisme qui est typique, d'ailleurs, de l'esprit allemand et qui va faire tant de ravages par la suite. Alors, comme ça, on espère réconcilier l'Évangile avec le rationalisme. Il faut expliquer les miracles par la raison. Alors, les nombreux récits de guérison, c'est que les gens n'étaient pas vraiment malades, hein. On n'ont été guéris que ceux qui avaient l'impression d'être malades. Et puis Jésus, par une bonne parole de réconfort, eh bien, leur a donné la force de vaincre leur soi-disant maladie. Bon, c'est un peu court, vous avouerez que c'est quand même des explications qui sont un peu courtes, et plus personne, ou plus aucun théologien sérieux aujourd'hui, ne s'en tiendrait à des fables pareilles. Mais enfin, à cette époque-là, c'était comme ça qu'on essayait de faire les choses. Alors, parmi les rationalistes allemands, il faut citer les principaux, le principal d'entre eux étant Leibniz, L-E-I-B-N-I-Z, ses dates 1646-1716, qui alors lui est non seulement un philosophe, mais aussi il a été homme d'État, il a été mathématicien, il a fait une foule de choses, il a été homme de science, n'est-ce pas? C'était un petit peu un homme universel, c'était un humaniste encore un petit peu dans la tradition de la Renaissance. Et puis, ce Leibniz, il avait ceci, c'est qu'il était encore orthodoxe. Ça veut dire qu'il était pas, il ne croyait pas aux fables dont je parlais tout à l'heure, il croyait vraiment à une intervention de Dieu. Mais il commençait déjà à faire des concessions, justement, avec la raison triomphante. Et lui affirmait que la raison et la révélation venaient de Dieu, et par conséquent ne sauraient pas se contredire, ce qui était d'ailleurs très juste. Il avait une intuition très vraie dans ce domaine-là. Et alors, à partir de là, il essayait de réconcilier les deux choses. Mais par contre, son disciple, Lessing, L-E-2-S-I-N-G, ses dates 1628-1791, va aller beaucoup plus loin que lui dans ce domaine-là. Et lui, donc, va être celui qui va entrer dans ces fameuses explications tarabiscotées des miracles. Nous aurons aussi un homme qui se nomme Christian Wolff, W-O-L-F, 1679-1754, qui sera un farouche adversaire des piétistes, dont nous aurons l'occasion de reparler justement dans la suite de ces études. Et puis ensuite, un certain Semler, S-E-M-L-E-R, qui était un historien et qui a été le fondateur de la critique allemande, cette critique que nous étudions actuellement en doctrine, en herméneutique, n'est-ce pas? Il a été un des pionniers justement de cette haute critique. Après les déistes anglais, les rationalistes allemands, le mouvement des Lumières passe en France. Et là, il va créer le mouvement que l'on appelle le mouvement des philosophes français. Le premier à entrer dans ce mouvement-là sera un prêtre oratorien. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, il se nomme Richard Semar, S-E-M-A-R, cette date 1632-1712, et il est le premier à adopter une explication rationaliste de l'Évangile sur le modèle, justement, des rationalistes allemands. Puis ensuite intervient un protestant qui se nomme Pierre Bayer, B-A-Y-E-R, ses dates 1647-1706, qui publie dans le même courant de pensée un dictionnaire historique et critique. Et ce dictionnaire historique et critique va être l'arme favorite de tous les rationalistes du XVIIIe siècle pour combattre le fait religieux, d'une manière générale, pour combattre le christianisme. C'est dire que c'est un ouvrage extrêmement dangereux. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les encyclopédistes. En effet, un certain nombre de philosophes, à la tête desquels on trouve Diderot et d'Alembert, vont publier la grande encyclopédie universelle qui sera l'œuvre maîtresse du XVIIIe siècle français et qui, comme son nom l'indique, essaye de récapituler le savoir universel. Mais un savoir, évidemment, qui est orienté dans une vision absolument rationaliste. Il faudra près de 20 ans pour réaliser cette œuvre gigantesque, 1751-1772. D'ailleurs, on vient de la réimprimer. On peut la trouver aujourd'hui encore, évidemment, c'est pas donné, c'est ça le problème. Puis ça vaut vraiment pas le poids du papier sur lequel c'est fait. Enfin, c'est une pièce historique, n'est-ce pas? Et cette grande encyclopédie ne rate aucune occasion, mais absolument aucune, d'attaquer à fond la foi chrétienne. Et la grande encyclopédie glorifie le progrès humain. C'est là que naît cette idée du progrès irréversible, du progrès permanent, n'est-ce pas, vers des lendemains qui chantent. Là, nous sommes en pleine utopie, cette utopie qui sera l'utopie du XIXe siècle et puis qui va mourir au milieu de notre siècle, hein, au moment des deux guerres mondiales en particulier, qui vont lui porter un coup fatal, mais hélas, dans laquelle encore des gens croient aujourd'hui. Alors, le principal promoteur de cette grande encyclopédie était le philosophe Diderot, ses dates 1713-1784, qui, lui, était un athée. Il n'était même pas déiste, il était carrément athée. Et cet homme, donc, ne ratait aucune occasion d'attaquer, tant qu'il pouvait, la foi chrétienne. Un autre philosophe français, n'est-ce pas, était dans la même voie, c'était Voltaire, le célèbre Voltaire. C'est date 1694-1778, qui lui était d'une certaine manière beaucoup moins extrémiste que Diderot. Diderot a nié beaucoup plus de vérité que lui, car Voltaire était un homme qui était dans la ligne des philosophes anglais. Il avait une grande admiration pour les philosophes, les déistes anglais, et lui se voulait et se disait déiste. Et son but était justement d'introduire en France les idées des déistes anglais qu'il avait connues quand il était jeune. Mais bien qu'il ait été moins extrémiste que Diderot, il est celui qui a fait le plus de dégâts, car il a attaqué le christianisme avec une verve et une méchanceté absolument inégalées. Il a inondé la France de ses pamphlets anti-religieux et il a semé dans notre pays les germes d'une irreligion qui demeure encore. Et l'irreligion qui est traditionnelle en France depuis cette période-là et le doit énormément à ce Voltaire qui d'ailleurs est mort dans des conditions assez dramatiques, n'est-ce pas, dans une grande terreur. Et puis ensuite, il faut citer Rousseau, dont nous avons parlé la dernière fois, je n'y reviendrai pas. Rousseau, 1712-1773, qui était d'origine protestante, c'était un Suisse, il était originaire de Genève, et qui préconisait le fait que l'homme était bon par nature, que toute nature était bonne, et que il fallait que la religion prenne acte de la bonté naturelle de l'homme. Voilà, c'était son point fort. Alors, c'est lui qui va donner ses lettres de noblesse à cette religion naturelle dont nous parlions tout à l'heure. Il préconise une religion du sentiment. D'ailleurs, il va préparer aussi le romantisme de la fin du siècle et puis du siècle suivant. N'est-ce pas ? Le sentiment, ce que l'on ressent beaucoup plus que ce que l'on raisonne. Là, il y a ce qui est très curieux, n'est-ce pas ? C'est que Rousseau prend le contre-pied des rationalistes. Là où les rationalistes disent il faut tout prouver par la raison, Rousseau dit la raison est trompeuse. La raison est insuffisante. Et il prépare d'ailleurs la voie aussi aux philosophes ultérieurs comme Kant, n'est-ce pas ? Et il faut donner priorité au sentiment. C'est par le sentiment, n'est-ce pas, que l'intuition, nous sentons les choses, et c'est par ce moyen-là que nous pouvons connaître la vérité. Et dans le domaine religieux, c'est très important, dit-il, le sentiment. Remarquons là un détail tout à fait intéressant, c'est que Rousseau était protestant. Protestant du XVIIIe siècle, à Genève, élevé dans une religion extrêmement intellectuelle, extrêmement rationaliste. Et de fait, dans le protestantisme genevois, au sein duquel Rousseau avait été élevé, le sentiment avait été quasiment évacué. Or, eh bien, dans la Bible, il y a place pour le sentiment. Mais le calvinisme genevois, le calvinisme même français, disons, avait tellement émasculé toute forme de sentiment que c'était un carcan insupportable. Et c'est finalement contre ça que Rousseau se rebelle, se rejette, et lui va basculer dans l'autre extrême. Il va tout baser sur le sentiment en matière religieuse. Alors, il n'y a plus de Bible. La Bible est sans importance pour Rousseau. Il n'y a plus de rédemption morale. La morale, d'ailleurs, qu'il prône est une morale facile. Et en cela, il rejoint aussi notre siècle, notre temps. Et puis, il laisse en dernier ressort la place à un jugement dernier, mais un jugement dernier qui n'est pas du tout redoutable. Et finalement, de fil en aiguille, Rousseau aboutit tellement à idolâtrer la nature que sa religion devient une sorte de panthéisme. C'est-à-dire que toute la création est Dieu. Dieu se confond avec sa création, ce qui est contraire à la révélation biblique, mais par contre cohérente avec les religions orientales. Comme nous disions hier, dans la Bible, Dieu est le Dieu saint, ça veut dire le Dieu qui est séparé. qui commence par être séparé de sa création. Il crée, c'est quelque chose qu'il crée en dehors de lui-même. Et par conséquent, l'homme aussi est différent de Dieu, bien que lui étant semblable. Il est autre, et Dieu est le tout autre. Mais les religions orientales disent, Dieu c'est l'ensemble, c'est la nature, c'est la création, tout est Dieu, et l'individu est une partie de Dieu. Et quand nous mourons, nous retournons à Dieu en quelque sorte, nous retournons dans ce grand tout qui s'appelle Dieu. Et Rousseau, n'est-ce pas, a repris un peu cette thèse-là, qui est devenue d'ailleurs presque un dogme aussi dans le protestantisme influencé par Rousseau de la fin du XVIIIe siècle. Ça. Il a consigné ses pensées dans deux ouvrages dans lesquels il dépeint ces choses, la Confession de foi du vicaire savoyard, qui deviendra effectivement presque la Bible des protestants de la fin du XVIIIe siècle, tous ceux en tout cas qui accepteront les idées de Rousseau. Et puis les rêveries du promeneur solitaire, ou alors il laisse place à ses sentiments, c'est pas, alors, des descriptions de la nature, et puis quand je vois cette beauté, bah, c'est sûr, il était dans un joli paysage en Savoie là-bas, bon, bah, c'est joli, c'est vrai, hein, les montagnes et tout ça, bon, ah, il s'écrie au grand tout, au grand tout, son Dieu c'est le grand tout, quoi. Le grand tout, le fourre-tout, quoi. Ce qui n'empêchait pas d'ailleurs lui de vivre comme un patachon. Il ne s'est jamais marié, il vivait en concubinage avec une femme qui lui avait servi de servante, dont il a eu pas mal d'enfants, il l'a trompée tant qu'il pouvait, et puis les enfants qu'il avait d'elle, n'est-ce pas, il s'en débarrassait à l'assistante publique, ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs d'écrire un livre d'éducation, il était très qualifié pour ça bien sûr, c'est pas qu'il s'appelle l'Émile, et qui sert aujourd'hui encore de modèle d'éducation pour beaucoup d'éducateurs, ce qui est d'ailleurs à noter, n'est-ce pas, dans lequel il préconisait la meilleure éducation, c'était finalement pas d'éducation du tout. Ce qu'il avait d'ailleurs fort bien mis en pratique avec ses enfants, puisqu'il ne leur avait donné aucune. Et que puisque l'enfant, l'homme, était naturellement bon, eh bien, il suffisait de laisser l'enfant céder à ses caprices, à ses instincts, et puis automatiquement, il allait devenir bon. Alors, il décrit ça en termes dithyrambiques dans son Émile, n'est-ce pas ? Il prend l'exemple d'un jeune enfant qu'il appelle Émile, qui, depuis sa naissance jusqu'à son mariage, il le suit, etc. Ah, et puis, il donne les grands principes d'éducation qui sont aujourd'hui encore, hélas, ceux de bien de nos éducateurs modernes. Alors, Rousseau va aussi avoir dans le domaine religieux, comme il en a eu dans le domaine politique, nous l'avons vu dans une des dernières fois, c'est pas une influence extrêmement négative, il va être un des plus grands désastres de tous les temps, si j'ose dire, pour ce qui concerne le christianisme. Maintenant, les philosophes des Lumières vont avoir un autre point qui, lui, va être positif. Quand même, il faut aussi dire que tout n'est pas négatif dans la philosophie des Lumières, c'est ce qui concerne la tolérance. Les philosophes du XVIIIe siècle vont lutter pour la tolérance, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. C'est un petit peu dommage que ce soit eux qui aient été à la pointe de ce combat-là. Bon, il faut dire qu'ils avaient été précédés par un certain nombre de gens, dans le protestantisme en particulier. C'est pas que ils ne sont pas véritablement, comme on veut le faire croire, les pionniers de la tolérance. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même allés beaucoup plus loin que ne le sont allés beaucoup de protestants. Il faut dire que, à leur décharge, ces protestants-là avaient aussi d'autres chats fouettés que de se battre pour la tolérance. Les philosophes n'avaient que ça à faire. Personne ne cherchait à les inquiéter le moins du monde. L'époque de l'Inquisition était passée. Par contre, ce qui va motiver essentiellement la lutte pour la tolérance de la part des philosophes, eh bien finalement, c'est quelque chose de négatif. C'est que ce sont des gens qui sont indifférents, sceptiques, relativistes, et c'est de là que naît leur idée de la tolérance. Et finalement, l'idée moderne de la tolérance repose exactement sur les mêmes bases. Puisque finalement, rien n'a d'importance. Puisque toutes les religions sont des contes de fées. Puisque rien de tout ça ne repose sur des bases réelles. C'est quand même pas la peine de s'entrétriper pour des choses qui sont d'aussi peu de valeur. C'est vraiment pas la peine de brûler un juif qui veut rester juif alors qu'on veut de toute fin, toute force le convertir au catholicisme. Et Voltaire va prendre la défense des juifs persécutés en Espagne et au Portugal par l'Inquisition. Non pas parce que il croit aux valeurs du judaïsme? Pas du tout. C'est justement parce qu'il n'y croit pas, pas plus qu'il ne croit aux valeurs du catholicisme. Alors, écoutez, quand même, bon, il y a des esprits faibles qui veulent croire à une religion, laissons-les. Aussi longtemps qu'ils font pas de mal à qu'ils font de mal à personne, laissons-les. Et l'idée de la tolérance va naître de là. De cette indifférence, de ce scepticisme et de ce relativisme qui naît au XVIIIe siècle. Alors, n'est-ce pas, plus rien n'a d'importance, plus rien ne vaut d'être défendu véritablement. Et par conséquent, laissons les esprits faibles croire ce qu'ils veulent. Et ces idées des philosophes, la Constitution américaine de 1787, au moment de la Révolution américaine, va lui donner sa première expression légale. Finalement, les philosophes vont entraîner la Révolution américaine, que l'on présente peut-être un peu trop vite d'ailleurs comme le résultat des rationalistes. C'était pas entièrement juste, c'était pas entièrement vrai. Car s'il est vrai que beaucoup des pères fondateurs, enfin disons des rédacteurs de la Constitution américaine, qui écrivaient en toutes lettres, n'est-ce pas, l'idéal de tolérance dans leur Constitution. La Constitution américaine a été la première, encore une fois, à donner une expression légale à l'idée de la tolérance. Bon, ceux qui ont rédigé la Constitution américaine étaient des gens qui étaient influencés par les philosophes rationalistes. Mais ils n'étaient non seulement influencés par les philosophes rationalistes, mais aussi par les pères fondateurs des États-Unis, c'est-à-dire les croyants, les protestants. Et la liberté qui a été garantie dans la Constitution américaine, et notamment qui s'inscrivait dans le cadre de ce qu'on appellera la séparation de l'Église et de l'État. C'est la Constitution américaine qui a été la première aussi à promouvoir la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, c'était le but qu'aucune religion n'ait une préséance sur les autres. Aucune religion ne puisse dominer sur les autres. Car il y avait déjà aux États-Unis à cette période-là pas mal de courants religieux divers, et la difficulté était grande pour dire, eh bien, quelle va être la religion officielle? Finalement, on dit aucune. Toutes seront sur un pied d'égalité. Toutes seront dans un esprit de compétition égale. Mais en même temps, c'était mauvais parce que ça donnait un esprit de compétition qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Finalement, de la même manière qu'à la libre entreprise aux États-Unis sur le plan économique, à la libre entreprise en matière de religion. Et les religions sont concurrentes, comme des entreprises sont concurrentes. C'est, comme disait un pasteur, c'est des boutiques. Et chacun développe sa boutique, comme chacun développe son entreprise, en faisant des crocs en jambes aux concurrents, c'est pas sans aucune vergogne. Or, ça, c'est l'esprit évangélique. Et l'esprit évangélique qui est venu des États-Unis a gagné le monde entier. Et les évangéliques du monde entier ont cet état d'esprit-là, qui est contraire à la vision de l'Église. Alors, vous savez son bon et vous savez son mauvais côté. Mais ça ne signifiait pas non plus pour les constituants américains que la religion ne devait pas avoir son mot à dire dans la marche de l'État. Au contraire. D'ailleurs, la Constitution américaine faisait référence à Dieu constamment, mais au Dieu des déistes, d'ailleurs beaucoup plus qu'au Dieu de la Bible. Mais pourtant, en filigrane, il y avait le Dieu de la Bible. Par exemple, sur le dollar, vous avez cette devise qui est écrite, qui est tout à fait curieuse de trouver ça sur un billet de banque, n'est-ce pas ? « In God we trust ». Nous mettons notre confiance en Dieu. C'est curieux, mais c'est sur le dollar américain. Si vous prenez un billet d'un dollar américain, vous verrez ça, « In God we trust ». Bon, c'est un des paradoxes de la société américaine. Et la démocratie américaine était basée sur des valeurs bibliques. Elle n'était pas, comment dirais-je, une société chrétienne au sens où on l'entendrait généralement, mais était basée sur des valeurs bibliques. C'est-à-dire que la démocratie telle que la concevaient les pères fondateurs américains n'était pas la dictature des 51% sur les 49%, ce que ça tend à être aujourd'hui. L'idée de la démocratie que nous avons dans cette fin du XXe siècle, c'est ça. n'est-ce pas ? J'ai la majorité des citoyens qui est pour moi, par conséquent, à partir de cette majorité-là, j'impose. Il y a une majorité qui s'est dégagée en faveur de l'avortement, maintenant, c'est l'avortement qui est légal. C'est fini. Ceux qui ne sont pas d'accord se taisent. Alors, la Constitution américaine avait une autre vision. La Constitution américaine, qui est un texte qui est extrêmement intéressant à étudier, avait institué un arbitrage. Comme d'ailleurs l'ont fait par la suite toutes les démocraties, même en France, on a ça, on a le Conseil constitutionnel, qui a un arbitrage. La Cour suprême, c'était aux États-Unis, c'est toujours. Et la Cour suprême, qui est en principe composée d'hommes intègres, choisis pour leur intégrité morale, voire religieuse, n'est-ce pas, sont des gens qui, éventuellement, si le Parlement a voté à la majorité une loi, peuvent dire « Niet, cette loi, elle est contraire à la Constitution, elle est contraire, enfin aujourd'hui on ne le dirait plus comme ça, enfin elle est contraire à la morale, à la limite, elle est contraire à la Bible. » Et par exemple, dans le canton de Berne, jusqu'à début de ce siècle en tout cas, n'est-ce pas, en Suisse, dans le palais de justice, il y a un tableau qui représente la justice, non pas comme une balance avec quelqu'un qui tient une balance et qui a les yeux aveuglés, vous savez, comme représente toujours la justice, mais qui présente les 10 commandements. C'est-à-dire que la justice, finalement, et la démocratie reposent sur une base, n'est-ce pas, légale, qui est basée sur le droit, sur la Bible, sur la morale, n'est-ce pas, et qui fait que, eh bien, le peuple ou ses représentants ne peuvent pas tout faire. Il y a les limites qu'on ne peut pas franchir et qui sont les limites des lois fondamentales de l'État. Et justement, la Constitution, quel est le but de la Constitution ? C'est de limiter les pouvoirs de la majorité. Se dire, ben voilà, c'est dans ce cadre-là. Or, aujourd'hui, justement, la notion de démocratie qui est née à cette période-là est en train de s'effondrer comme un château de cartes parce que, de plus en plus, un peu partout dans le monde, les pouvoirs des cours suprêmes ou des cours constitutionnelles se réduisent comme une peau de chagrin. Et finalement, celui qui manipule la majorité, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des majorités qui sont manipulées, eh bien, est un véritable dictateur. C'est une dictature déguisée, n'est-ce pas, au nom de la démocratie. J'ai 51% des voix pour moi, j'écrase la minorité qui a les 49%. Tandis que pour les pères fondateurs de la démocratie américaine, un des aspects de la démocratie aussi, c'était de respecter les droits de la minorité. Bien sûr, cette minorité, si elle était minoritaire, ne pouvait pas imposer sa volonté aux autres. Mais il devait y avoir un échange, un dialogue, pour que finalement cette minorité puisse avoir un espace de liberté en fonction de ce qu'elle souhaitait, voire éventuellement de ce qu'elle refusait dans les choix de la majorité. Et ainsi lui laisser la possibilité de s'exprimer aussi. Bon, on voit que là, on est dans un autre idéal de la démocratie que ce qu'on vit aujourd'hui. Or, ça, c'était l'œuvre des chrétiens. La Constitution américaine était finalement, en dernier ressort, l'œuvre des chrétiens. Et cet idéal démocratique est un idéal qui, petit à petit, va pénétrer graduellement les consciences, en particulier, justement, dans les pays protestants, où elle va réussir peu à peu à s'implanter. Déjà, en Hollande, au milieu du XVIIe siècle, des idées semblables avaient été non seulement prônées, mais étaient déjà vécues d'une certaine manière. Et puis, en 1789, en Angleterre, Guillaume d'Orange va promouvoir une loi sur la tolérance dès sa prise de pouvoir. Et cette loi de tolérance touche tous les dissidents protestants. Souvenons-nous que pendant tout le XVIIe siècle, le grand débat en Angleterre avait été justement les droits de ce qu'on appelait les non-conformistes, c'est-à-dire les protestants qui avaient rompu, pour une raison ou pour une autre, avec l'Église anglicane étant justement l'Église d'État. Et précisément, c'est ce que les constituants américains vont refuser, n'est-ce pas ? Ils vont refuser une Église d'État. et c'est pourquoi ils vont avoir la séparation d'Église et l'État. Or, ce qui est aujourd'hui dramatique, c'est que aux États-Unis comme ailleurs, à fortiori en France, n'est-ce pas, la séparation de l'Église et de l'État n'est plus considérée comme, si vous voulez, la mise à plat de toutes les religions. D'ailleurs, en France, le catholicisme reste, qu'on le veuille ou non, la religion officielle, même si officiellement elle ne l'est pas, mais dans les faits, elle le reste. Dans les esprits, dans les mœurs, etc. Mais aujourd'hui, la séparation de l'Église et de l'État est conçue comme un moyen de museler l'Église. L'Église n'a plus rien à dire, l'Église doit se taire, l'Église ne peut que s'occuper de, comme disent les gens du monde, n'est-ce pas, que de bondieuserie, et puis nous laisser, nous, hommes politiques, spécialiste de ceci ou de cela, de l'économie, de la sociologie, de la psychologie, etc. C'est notre problème. L'Église n'a plus rien à dire dans ces choses-là. C'est ça, justement, la séparation de l'Église et de l'État. Et l'Église n'a plus accès, n'a pas accès, n'est-ce pas, aux moyens d'information. Demandez la possibilité de vous exprimer à la télé sur tel et tel sujet, vous verrez comment vous serez reçu en tant que représentant d'une Église, n'est-ce pas. Alors, en Angleterre, il y a cette évolution petit à petit. L'Église anglicane va perdre son statut d'exclusivité. Mais en Irlande, par exemple, cette tolérance qui touche partout ailleurs, n'est-ce pas, les protestants non conformistes, comme on les appelle, c'est-à-dire non anglicans, ne touche pas les catholiques. Et les catholiques continuent à être persécutés. Ça vaut pour les protestants, mais ça ne vaut pas pour les catholiques. D'autre part, seule l'Église anglicane continue à avoir le droit de posséder des biens. Mais par contre, pour les non-conformistes, la liberté de culte est garantie. En plus, nous avons aussi une évolution tout à fait intéressante. Frédéric Guillaume Ier, qui règne de 1712 à 1740, est encore un homme intolérant, qui refuse toute autre église que l'église d'État. Par contre, son fils Frédéric II, dit le Grand, qui règne de 1740 à 1786, est un ami de Voltaire, et de un de ces souverains européens du XVIIIe siècle qu'on appelle les despotes éclairés. Despotes éclairés, c'est justement ceux qui ont fait leur la philosophie des Lumières et qui, sans attendre qu'une révolution ne vienne bouleverser les bases de leur État, prennent le même l'initiative d'un certain nombre de réformes qui vont dans le sens justement de la philosophie des Lumières et notamment justement de la tolérance. Et parmi le combat des philosophes, outre la tolérance en matière religieuse, les philosophes vont s'élever aussi contre, par exemple, l'usage de la torture. Et par exemple, un homme comme Frédéric le Grand de Prusse va de lui-même abolir la torture, l'usage de la torture dans ses États, qui était un usage permanent. On appelait ça la question, n'est-ce pas ? Par exemple, quand vous aviez un prévenu, c'est-à-dire quelqu'un qui était soupçonné d'un délit, Il était soumis encore dans le droit français, n'est-ce pas, jusqu'à la Révolution française, hein, il était soumis à ce qu'on appelait la question. La question, c'était la torture pour lui faire avouer ce qu'il n'aurait pas avoué autrement. Alors, il y avait deux types de questions. Il y avait la question ordinaire, ça veut dire une torture gentille, enfin, c'est autant qu'une torture puisse l'être, qui dépassait pas certaines limites. Et puis, quand on avait affaire à un criminel de haut vol, on lui donnait la question extraordinaire, c'est-à-dire que là, on y allait à fond dans la torture. Bon, alors, bien entendu, on obtenait des aveux touchants dans ces moments-là. Forcément, le malheureux torturé avouait tout ce qu'on voulait. Alors, la torture, bien entendu, Voltaire, les philosophes s'élèvent contre la torture. Et en tant qu'ami de Voltaire, Frédéric va abolir la torture dans ses États. Bon, ça, c'est quand même quelque chose de positif. Autre point sur lequel les philosophes vont se battre, l'esclavage. L'esclavage des Noirs. C'était l'époque, n'est-ce pas, où se pratiquait ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire était très répandu sur les côtes de l'Atlantique en particulier, depuis l'Orient, justement, l'Orient qui était un très très grand port négrier à cette période-là, en passant par Nantes, Bordeaux, surtout c'était les grands centres du commerce triangulaire. Qu'est-ce que c'était que ce commerce triangulaire? Eh bien, c'était un commerce qui partait donc de ces ports, de l'Atlantique, avec des cargaisons de verroterie, de pacotille, de choses semblables sans beaucoup de valeur. On allait sur les côtes du Sénégal et de l'Afrique, Guinée, etc. Et là, on échangeait cette pacotille sans valeur contre des Noirs. que les chefs noirs, d'ailleurs, étaient bien heureux de vendre. Ce qui, entre parenthèses, évidemment, montre bien que l'odieux de ce commerce-là, qu'il n'est pas question de nier un seul instant, et l'énorme responsabilité de ceux qui pratiquaient ce commerce, eh bien, avait la complicité, justement, des Africains eux-mêmes. Les Africains feraient bien de se rappeler aussi que, avant d'accuser les Blancs de tous leurs malheurs, eh bien, ils ont été aussi pour quelque chose. On vendait d'ailleurs soit des prisonniers faits à l'ennemi, soit des gens de tribus qu'on voulait affaiblir, on faisait des razzias dans les tribus voisines, puis on vendait ça ensuite aux Blancs. C'était, tout le monde y trouvait son compte, n'est-ce pas? Alors donc, on achetait ces Noirs, on les embarquait sur des navires négriers, spécialement gréés pour cette fin, et puis on les vendait, notamment dans les Antilles, aux riches planteurs, n'est-ce pas, qui exploitaient là-bas les plantations de café, d'épices, de rhum et de tout ce qu'on voudra, fleurissaient dans ces îles. Accessoirement, on a commencé à les vendre aussi ensuite aux États-Unis. Mais au début, c'était simplement dans les îles des Antilles. Et des Antilles, n'est-ce pas, après avoir déchargé leur cargaison de noirs, ces navires négriers embarquaient donc des épices, du café, du rhum, etc., puis ils revendaient ça en Europe. C'était un commerce extrêmement fructueux, extrêmement important. Il faut dire que de nombreux protestants s'y livraient. Des protestants hollandais, par exemple, qui avaient une conscience formidable. L'Orient a été construit autour du commerce triangulaire par des armateurs protestants aussi qui donnaient beaucoup d'eux-mêmes pour les bonnes œuvres, n'est-ce pas ? Ils faisaient beaucoup de bonnes œuvres tout en laissant mourir ces Noirs, n'est-ce pas, dans les cales de leurs navires. Bon, enfin, c'est des paradoxes parfois qu'on trouve dans l'histoire de l'Église qui ne sont pas toujours à la gloire de l'Église. Et donc, il a fallu que ce soit les philosophes athées ou en tout cas déistes qui s'élèvent contre le commerce triangulaire. Montesquieu, par exemple, a écrit des traités contre l'esclavage des Noirs. Bien entendu, de son temps, c'est quelque chose qui n'a pas été accepté. Il a fallu attendre la Révolution française pour abolir l'esclavage des Noirs, justement parce que les idées des philosophes ont fini par pénétrer. Et Napoléon, lui, a rétabli l'esclavage des Noirs parce que c'était évidemment très pratique sur le plan économique. Alors, Frédéric va aussi promulguer ce qu'on appelle un édit de tolérance qui va avoir les mêmes effets pratiquement que... Bien, dans l'Église orthodoxe, du 15e au 18e siècle, Constantinople est sous la domination des musulmans. Et la domination musulmane qui veut diviser pour régner, encourage les orthodoxes à se dresser contre le pape, contre la chrétienté occidentale. Donc, les musulmans attisent les conflits internes au christianisme. Et au XVIIe siècle, le patriarche de Constantinople, qui se nomme Cyrille, va prendre des contacts avec les protestants parce que lui aussi est touché par la philosophie des Lumières. Et il va partager avec des protestants libéraux, des protestants rousseauistes, si vous voulez, un certain nombre d'idéaux. Et, par exemple, il va y avoir des confessions de foi qui vont être inspirées en pays orthodoxe par la confession de foi du vicaire savoyard cher à Rousseau. Même chose en Russie, où le patriarche Nikon entreprend une réforme liturgique qui a pour but aussi de mettre un petit peu une espèce d'aggiornamiento de l'Église orthodoxe. Mais évidemment, ces réformes-là, qui sont celles de l'élite de l'Église orthodoxe, vont se heurter à une opposition violente du peuple. Le petit peuple, lui, reste fidèle à la tradition orthodoxe pure et dure, et il va y avoir un schisme qui va découler justement de cette opposition. De ce schisme naîtront un certain nombre de sectes, dont certaines seront anticléricales, rationalistes, et voire même parfois immorales, qui iront jusqu'à promouvoir l'immoralité. Par exemple, si on aura l'occasion de revenir au début de ce siècle, n'est-ce pas, sur un personnage orthodoxe haut en couleur qui se nomme le Rasputin. Rasputin qui a été le mauvais génie des derniers tsars de la Russie au moment de la révolution d'octobre 1917. Et c'était un starets, c'était un homme qui était issu du peuple, n'est-ce pas ? Il n'était pas ordonné officiellement, mais c'était un de ces religieux charismatiques comme il peut y en avoir dans la piété orthodoxe russe, n'est-ce pas ? Et ce Rasputin-là avait créé ce qu'il appelait le culte des croyantes nues, où les participait la famille impériale, l'impératrice de toutes les Russies avec ses filles, participait à ce culte des croyantes nues avec le pape Rasputin, n'est-ce pas, qui ne se gênait pas pour faire ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas. Ça a été évidemment le discrédit total qui a été jeté sur la famille royale. C'était des cultes immoraux, n'est-ce pas, qui remontaient à cette période, n'est-ce pas, où un certain nombre d'orthodoxes s'étaient ouverts aux idées rousseauistes du vicaire savoyard. Alors, ça aura des conséquences à long terme qui entraîneront tout simplement la chute du régime en Russie et l'avènement du communisme. Rasputin a été, avec ses cultes immoraux, un des instruments de cette chute. Alors, on n'en est pas encore là, à cette période-là. Au contraire, on est dans une période de grande extension de l'Empire russe avec Pierre le Grand, 1689-1725, qui lui, sous l'influence aussi des philosophes, va tenter de laïciser la Russie. Et par exemple, il institue à Saint-Pétersbourg des moines qui sont nommés directement par lui-même, par le tsar, ce qui est contraire à la tradition orthodoxe. Et l'Église devient une administration comme les autres dans l'État sur laquelle il a la haute main. Bon. Comme c'est un homme qui ne s'embarrasse pas beaucoup de scrupules, qui fait taire les oppositions par la force, finalement, il arrive à ses fins. Lui succède sa fille, qui se nomme Catherine, qui prend le nom de Catherine II, ces dates 1662-1696, qui, elle aussi, appartient à cette catégorie des monarques éclairés, des despotes éclairés, comme le faisait Frédéric le Grand, dont nous parlions tout à l'heure, et puis aussi les souverains de Suède, Christine de Suède en particulier. N'est-ce pas ? Et Catherine II est en correspondance notamment avec les philosophes français, car la France la référence de toute l'aristocratie, de toute l'intelligentsia russe à cette période-là. D'ailleurs, leur langue est le français, c'est en français qu'ils s'expriment entre eux. Et Catherine est une fervente admiratrice, n'est-ce pas, de Voltaire. Et alors, elle va introduire aussi en Russie un certain nombre de réformes, à l'inverse de Pierre le Grand, n'est-ce pas, qui lui, au contraire, avait été extrêmement centralisateur. Catherine II va être beaucoup plus libérale, mais faussement libérale, car Catherine est finalement une fausse libérale, et lorsque son pouvoir est en cause, elle n'hésite pas aussi à revenir aux méthodes musclées qui sont celles des tsars, d'une manière générale. Les tsars n'ont jamais été des démocrates spécialement. Et la Russie, d'ailleurs, est un des pays qui n'a jamais connu de véritable démocratie. Mais elle va avoir une certaine tolérance, notamment dans le domaine religieux. C'est ainsi que les Ménonites vont avoir le droit de s'installer en Russie, ce qui est nouveau. Les Ménonites, qui étaient persécutés un peu partout, sauf aux États-Unis, n'est-ce pas, où ils vont fonder d'ailleurs à cette période-là les premières colonies qui deviendront les colonies Amish jusqu'à nos jours, c'est à cette date qu'ils remontent, n'est-ce pas. Et il va y avoir aussi des colonies du même type qui vont se créer en Russie à l'instigation de Catherine II. Et précisément parce que les Ménonites sont des gens qui refusent le service militaire, eh bien Catherine II les exemptera du service militaire, ce qui pour une tsarine russe est quand même quelque chose d'assez remarquable. Mais par contre, elle continue aussi, comme l'avaient fait les rois d'Angleterre, à persécuter les catholiques. Alors là, le catholicisme reste l'ennemi, mais par contre, quelques protestants par-ci, par-là, c'est pas un problème. Et l'implantation protestante en Russie, qui est quand même relativement importante aujourd'hui, date de cette période-là. Dans les pays catholiques, la lutte pour la tolérance est infiniment plus difficile. Peut-être qu'on va s'arrêter là ce soir, si vous voulez, avant de commencer là, concernant les pays catholiques. Bon, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions à poser sur...